Bonjour à toutes et à tous. Enchanté de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Campus Lille ou www.campuslille.com. Au sommet aujourd'hui de cette émission, nous vous proposons une série d'interviews réalisées la semaine dernière au Salon du deux roues et de la moto de Lyon. Un événement incontournable qui réunit depuis quelques années constructeurs, équipementiers, motoclubs, voyagistes et bien d'autres activités. Vous écoutez l'émission des motards de Kick un coup et tout pâle sur Campus Lille. On se retrouve dans quelques instants, juste après notre premier morceau de musique. Restez avec nous et à tout de suite. Toujours au salon de Lyon et je suis avec Vincent. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Donc tu es le repreneur de cette société qui s'appelle
DJ Sidecar exactement.
DJ Sidecar.
Et qui était DJ Construction depuis 1988.
Alors, et cette, tu ne fais que du sidecar?
Alors ouais, on fait que du sidecar. On est basé en Savoie, Donc c'était DJ pour Damois Jean-Louis qui a créé ça, qui a commencé avec des petites motos bécanes et des sidecar cross, qui ensuite a évolué au fur et à mesure. Et maintenant, on attelle toutes sortes de motos, généralement des grosses cylindrées. On va dire qu'on part de la 1300 GS en passant par la S1000RR, des GSXS en roadster, Hayabusa et toutes sortes de motos.
D'accord. Moi j'aimerais qu'on fasse un petit tour, tiens, du stand, on en profite. Hein,
oui.
Là tu présentes un 1000S.
Un 1000RR.
RR.
Exactement.
RR.
Alors on a plusieurs paniers en fait, donc en sidecar on dit un
panier. Moi j'ai regardé, c'est du beau matos. Hein.
Oui, c'est du joli, matériel, on essaye en tout cas.
On s'approche.
On peut s'approcher. Aujourd'hui, là on a amené plusieurs, on va dire, plusieurs domaines. Donc là on est vraiment sur le domaine sport.
C'est une un bassé un peu
Alors on est encore un peu différent du bassé, on reste sur les sidecars qui sont homologués, qui sont roulables sur la route tous les jours. Mais avec, par contre, une technologie qui permet d'aller faire un peu de course de côte ou du rallye routier en championnat de France.
Tu peux nous décrire un peu la fourche à avant, parce que c'est impressionnant, là.
Ça, c'est un système de double bras superposé. Donc, ça va permettre d'avoir un train avant avec un frein plus conséquent que la moto d'origine, vu qu'on a un peu plus de poids, et surtout d'avoir une vraie tenue de route. On va déporter la chasse, on va pouvoir mettre un pneu automobile. Là, on a un pneu semi-slick du fait qu'il soit sportif. Des amortisseurs de bonne qualité, soit des all-ins, soit des Shock Factory qui ont été développés pour ce modèle-là, de manière à avoir un sidecar confort et agréable à rouler.
Alors, c'est performant, la performance est marquée dessus, faire performance, mais est-ce qu'on peut partir en vacances éventuellement avec ?
Oui. Alors oui, on a Christian qui est juste derrière nous, qui lui part en Bretagne, en habitant en Savoie avec, en vacances. Donc ça, c'est pour ceux qui partent en France. Et puis après, on va avoir des modèles qui sont plus tourisme, plus de voyages, et qui là peuvent partir...
C'est juste à côté.
Beaucoup plus loin.
Je te propose de passer juste à côté. Voilà.
On passe à côté. Dernier de la gamme, c'est le nouveau.
Du sidecar cross un peu. Hein.
Exactement.
Voilà.
C'est un sidecar qu'on a développé cette année, qui a pour but de voyager par les chemins. On a une base de F900 GS. C'est un trail moyenne cylindre, ce qui permet d'avoir un poids quand même encore assez contenu. Et on a développé un panier à grande roue avec des jantes développées sur mesure, renforcées, des amortisseurs pareil fait par Rollins avec un grand débattement, une fourche à balancier typique des sidecars de cross, et un panier qu'on peut aménager comme on veut, avec un siège, avec une caisse en alu pour emporter du chargement, un animal de compagnie. Ou alors on enlève tout.
On prend son chien avec.
Ah bah oui, on voyage avec les animaux de compagnie. C'est important.
Mais c'est un petit peu plus sportif.
Nous, on a voyagé. Là, on est parti pour faire un test au Maroc. On a fait 2000 km en 5 jours. Donc ça donne un petit peu la moyenne. Et se rendre compte que c'était du vrai voyage. En revanche, si on l'enlève, on enlève toute la bagagerie. On peut s'amuser, avoir un côté sportif et avoir un singe qui fait vraiment le travail à côté.
Bon, on passe à suivant.
On passe au suivant.
Qui est exposé aussi sur le stand, là.
Là, on va retrouver...
un plus le tourisme.
Voilà, exactement. On va retrouver la même moto, donc l'aspect très sportif que monsieur y recherchait au moment de la fabrication et du projet. Et par contre, sa passagère, qui maintenant devient un singe, comme on les appelle en sidecar, elle voulait quelque chose d'assez confort. Donc un panier de tourisme avec un pare-brise, une capote qu'on peut mettre en trois parties.
Oui, c'est un petit peu plus de confort, là. Hein.
Un vrai coffre, des harnais... On peut mettre des sièges chauffants, prise USB, donc voilà, on va vraiment gagner en confort, et ce qui va leur permettre de voyager. C'est vraiment le but de ce sidecar-là. En tout cas, voyager de façon un peu sportive pour monsieur, c'est vrai, mais faire de belles balades.
Alors dans le sas, il y a le chauffage, il y a la radio, le chauffage.
Il n'y a pas de chauffage. Non. Les radios, aujourd'hui, on ne les met plus parce qu'avec les intercoms, on peut facilement brancher les téléphones, écouter les podcasts, normalement, comme vous faites, pour faire passer le temps. Mais par contre, on a des sièges chauffants qui existent, ce qui permet de garder un peu de confort aussi.
D'accord, très bien, très bien. Bon, on passe au dernier modèle qui est
exposé.
C'est le dernier modèle qui est exposé là, sur le stand. Donc là, c'est vraiment pour faire du road trip. Là.
Exactement. Donc là, c'est pour faire du road trip. Alors là, on a une base de 1250 GS Adventure avec, pareil, le dernier qu'on a ressorti, c'est le Tarendo Adventure, qu'on avait une base, qu'on a élargi et allongé de manière à pouvoir partir avec encore un peu plus de confort, toujours ce qu'on recherche. Et ce sidecar-là, il est parti au Cap Nord cet hiver, en plein hiver.
En plein hiver ?
Voilà, alors non, on a les images là, pour le podcast, vous ne les aurez pas.
Oui.
Mais c'est à retrouver sur notre site, DJ Sidecar, ou rechercher sur Internet les fonds du Savoyard.
Oui.
Et donc leur but, c'est de monter et de choper les températures les plus froides. Ils ont eu plus de moins 40 cette année. Ils vont rouler sur 10 jours
environ.
Ah oui,
là, on voit sur l'écran que...
C'est 6000 km de glace, des pneus clous. Des pneus clous, des vêtements chauffants par Garbing et tous ceux qui sont spécialisés là-dedans. Donc voilà, ça demande certaines préparations. Mais Gilles Nully, qui organise ces expéditions, il est habitué et nous partage tout ça sur les réseaux sociaux. Et Il y a beaucoup de monde qui le suit.
Il n'y a pas eu de problème
Non, pas de soucis
au niveau de la
mécanique. Nous, on fabrique des sidecars qui sont...
De la partie SIC, tout ça.
Non, la partie SIC, il n'y a aucun souci. On sait ce qu'on fait. À ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Cette année, il y a eu un petit souci de démarreur dû à moins 40. Lui, il est un petit peu, un petit peu trop rigide. La relive de démarreur, on n'a pas aimé. Voilà.
Voilà.
Mais bon, ça demande une organisation. Hein. Le matin, on les démarre, on ne les coupe pas avant le soir. Voilà, il faut amener une batterie voiture pour les démarrer le matin. Par moins 40, la mécanique, elle n'est pas prévue pour ça. Donc, on prend nos dispositions de manière à ce que ça se passe bien. Et depuis 5 ans, ça se passe bien. Donc, ils y retournent.
Très bien. Alors, en 2026, comment il se porte le marché du sidecar ? Parce que c'est vrai, on n'en voit, voit pas beaucoup sur les routes quand
ça
même.
Ça a vachement diminué, en fait, depuis les années 90. À l'époque, on était motard, on avait un enfant, on avait un sidecar. Et puis, au fur et à mesure, ça a vachement changé. Les réglementations se sont un petit peu durcies. Donc, il y a eu moins de monde, moins de constructeurs aussi. Ce qui fait qu'on a un plus petit marché, mais on est moins de constructeurs. Donc, pour nous, ça fait une grosse demande quand même.
D'accord.
On a un marché aujourd'hui qui se porte avec... on a plus d'un an de commandes. On est sur un an et trois, quatre mois de commandes. Ouais. On en a plus de 25 en commande. Donc, c'est incroyable parce qu'on a des clients qui nous ont fait confiance. Nous, on a repris la société il y a 3 ans. On en a fait plus de 60 depuis qu'on a repris. Et on continue de se faire plaisir avec des véhicules toujours plus sympas. On évolue, on suit ce qui se fait, les tendances qui se font Et on continue de faire des beaux sidecars en France.
Okay. Tous ces modèles qu'on vient de parler, c'est leur de prix à peu près.
Du modèle tout terrain au modèle les plus équipés. On va dire qu'on commence à 15 000 euros pour le modèle tout terrain, qui lui a un panier en alu assez sommaire. Et puis quand on a quelque chose de plus fini, avec les sièges chauffants, la capote, toutes ces choses-là, les amortisseurs all-in, sa couleur, on peut aller à entre 24 et 30 000 euros. Voilà, c'est une moyenne.
Donc la machine, le sidecar et le panier, tout avec les...
Sans la machine.
Sans la machine.
Ouais, sans la machine.
Ah, il faut la machine.
La moto.
Comment ça marche ? On peut venir avec la...
On vient avec sa moto d'occasion.
On achète la machine et on vient chez vous, là,
exactement.
Et atteler.
Soit on achète une moto neuve, on fait le petit rodage et puis ensuite on s'occupe de l'atteler. Soit vous trouvez une belle occasion, tant qu'à faire, pas trop kilométré, parce que c'est fait pour rouler, on n'a pas des machines de vitrine, donc... Et puis après, nous, on s'occupe de l'atteler, transformé, homologué.
Homologué, oui.
Et vous repartez avec un sidecar homologué et fini.
Parce que pour les gens qui n'ont jamais conduit sidecar...
Les sidecars, il existe.
Est-ce que c'est intéressant de prendre une petite formation avant?
Alors tout à fait. Très bonne question.
Ouais.
Nous, on a notre prédécesseur qui maintenant fait des stages pour initier les gens justement à tout ça.
Oui.
Il y a aussi des écoles comme Inside et Side School qui font des stages. Alors, il y en a de partout en France. Il y en a 3 en tout, mais du coup, ça en fait un peu partout en France. Ça permet d'apprendre comment conduire un sidecar qui est très différent de la moto.
Oui.
C'est important de passer par là. C'est pas une voiture. Ah non.
C'est pas une voiture.
On roule avec des chevaux, avec du bruit et tout ça.
Voilà.
C'est pas une voiture, c'est pas une moto. Ça se conduit différemment. C'est une conduite qui est assez fine. Mais une fois qu'on a pris le coup, c'est très agréable.
Voilà, donc vous conseillez de prendre une petite formation pour les gens qui veulent acheter un side.
Presque obligatoire pour rouler en sécurité et prendre du plaisir à rouler.
Ouais.
Voilà.
Est-ce qu'on peut prendre des enfants dans le salon de ça ? Il y a les ceintures de sécurité.
On peut mettre
des
ceintures de maintien. C'est comme une moto, c'est-à-dire que c'est au bon jugement des gens de commencer au bon âge. Peut-être avec une petite minaire pour éviter que le casque soit trop lourd pour les enfants en bas âge. Mais bien entendu, de base, le sidecar est même familial. Donc les enfants sont les bienvenus ou les petits-enfants.
Et même le chien.
Et même le chien. Bien sûr, le chien. Aucun souci, ça permet de voyager avec toute la famille.
Super. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose ?
On est en Savoie, venez nous voir. On est en Savoie, à Albins, donc on est entre le lac d'Annecy et le lac d'Aix-les-Bains. On est ravis de vous accueillir si vous passez dans le coin, de vous montrer. C'est artisanal à 100%. Aucun sous-traitant n'est à plus d'une heure de route de l'atelier. Donc c'est vraiment le site Made in Savoie, c'est ce qu'on veut conserver. On va de la fabrication de nos roues à la fabrication du châssis, à tout est développé sur mesure, donc venez nous rencontrer et on vous explique ça.
Moi, je sais ce qu'on peut ajouter, c'est si vous avez un site internet,
facile, djsidecar.fr.
djsidecar, ouais.
Voilà, vous nous retrouvez dessus. C'est un site qu'on essaie de mettre à jour le plus possible. Le maximum des informations se trouve sur Facebook et Instagram. C'est là où on vient publier un petit peu les nouveautés, les rendez-vous à ne pas rater. On organise les DJD l'année prochaine, qui est un gros rassemblement.
Si vous organisez des rendez-vous motards
une fois tous les deux ans. On fait un gros rassemblement.
C'est encore un monde encore un petit peu plus.
Le monde de la moto est petit et le monde du sidecar est encore plus petit.
C'est les marginaux un peu sidcaristes.
Mais le monde du sidecar, c'est un petit peu le motard des années 90. C'est très familial, on s'entend, il y a une très bonne entente. Il y a énormément de partage et ça, c'est ce qui nous plaît.
Est-ce qu'il y a que des jeunes viennent s'intéresser au sidecar ?
Alors oui, moins que dans les années 90. Alors moins jeunes. Non, on va dire 50 ans.
50 ans.
Ouais. Ouais. Mais j'ai encore quand même des familles qui viennent pour la première naissance. On veut pas arrêter la moto, donc on passe au sidecar et comme ça on roule en famille. D'accord. Donc il y a des jeunes qui s'y intéressent.
Bon.
Et nous on est jeunes, donc on invite les jeunes à venir à la rencontre.
C'est une bonne nouvelle hein, parce que c'est pour faire vivre le sidecar.
Le but c'est de le faire perdurer. Ouais. Et faire perdurer. Faut pas que ça s'arrête. Il y a un savoir-faire français qui est génial. On a des clients qui sont géniaux et il faut le garder, il faut continuer quoi.
Voilà, écoute Vincent, merci hein, pour cette interview qui nous a vraiment éclairci sur le monde du sidecar.
Sur le sidecar de France.
Et on rappelle DJ.
DJ sidecar, facile.
Hein, .fr.
Normalement, on peut pas faire plus simple.
Super simple. Merci. Toujours au salon de Lyon, je suis avec Philippe Canté. C'est bien ça,
c'est
Philippe ?
C'est ça, oui, il n'y a pas de problème.
Alors Philippe, c'est extraordinaire. Toi, tu as fait un voyage de 2 ans en moto et tu as écrit un bouquin. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé.
Alors, je veux déjà remettre les pendules à l'heure. C'est pas tout seul.
Oui, c'est pas tout seul.
Hein. Avec une passagère et qui était vraiment moteur dans l'idée du voyage hein, et qui m'a boosté pour.
C'est elle qui t'a mis le coup de pied au cul pour partir.
C'est ça, c'est tout à fait ça. Et voilà. Moi, j'avais un peu peur de quitter le train-train quotidien, ma zone de confort. Et Frédéric, donc ma compagne et passagère, m'a décidé. Et je dirais que 35 ans après, ben, je ne le regrette pas, bien au contraire.
Et donc, vous êtes parti avec quelle moto ?
Donc, on est parti avec la meilleure moto qui existe. Pour moi, la meilleure moto qui existe, c'est la moto qu'on a déjà, parce qu'on la connaît bien. Donc, moi, j'avais acheté cette moto, l'une 500 XT, pour mes 25 ans. On est parti, alors d'occasion, hein, et on est parti, on avait 28 ans tous les deux. Donc la moto, elle n'était pas toute jeune, elle avait 13 ans, mais on la connaissait bien, et puis bon, c'est une moto qui est faite pour voyager, même si en duo, ça se fait quand même assez peu, hein, c'est, voilà. Et on est parti, donc on n'avait pas d'enfants, évidemment, et on n'avait pas de maison, donc on a loué un garage pour mettre le peu d'affaires qu'on avait, et on est parti sans savoir quand est-ce qu'on allait revenir. Beaucoup de monde nous demande comment on a fait au niveau budget. Donc on a économisé énormément sur 2 ans et on a vécu vraiment très chichement avec en louant une maison qui ressemblait plus à une grange qu'à une maison, mais bon, avec l'objectif de partir, et ça motive, ça permet d'accepter des conditions, puis ça nous préparait aux conditions qu'on allait avoir en 2 ans à camper avec une moto de toute façon.
Alors un voyage de 2 ans, on commence par où ? C'est compliqué. Alors, ça.
On a regardé. Enfin, c'est Frédéric qui a préparé tout ça. Hein. La préparation, c'était 2 ans. Hein. Et c'est Frédéric qui a préparé tout ça. Et on n'avait pas de contraintes. On voulait pas se donner de contraintes de temps. Ce qui nous a fait une contrainte de temps, c'était la météo. Il fallait être à peu près au bon moment, aux bons endroits, enfin par rapport à la météo. Et on n'avait pas de rendez-vous, on n'avait rien. C'est vraiment la météo, les saisons qui nous ont orientés. Et on a commencé par les États-Unis. Pourquoi commencer par les États-Unis ? Parce qu'on s'est dit, au niveau culturel, il n'y a pas trop d'écart. Il y aura des grands espaces, mais voilà, ça va permettre de nous rôder. Hein, si on avait commencé par l'Inde, je pense que ça fait des contrastes un peu rapides et un peu plus compliqués. Donc on a commencé par les États-Unis, Mexique, Amérique du Sud, après Australie, Inde. On avait prévu l'Afrique, ça s'est pas fait. On est rentré par le Moyen-Orient, mais. Pour une raison simple, c'est qu'on a appris à Katmandou qu'on allait être parents.
Ah oui.
On a eu la première échographie.
Vous êtes partis à deux et finalement, vous revenez à trois.
Voilà. Déjà que le voyage en duo, ça se fait pas beaucoup sur une moto.
Ah, c'est la moto.
À deux et demi à la fin.
À deux et demi, c'est la moto. Ouais.
Les 12 000 derniers kilomètres, on savait qu'on
allait. La pauvre 500 XT alors.
Hein. Et voilà, ouais. Et le bébé se porte bien, il a son permis moto depuis. Et
puis, voilà. C'est un motard.
C'est une motarde.
C'est une motarde, ouais, voilà. Très bien. Et qu'est-ce qu'on pourrait donner à des gens qui éventuellement auraient le projet de partir aller à l'aventure pendant 2 ans, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ?
Moi j'ai tendance à dire donc la meilleure moto c'est celle qu'on a déjà parce qu'on la connaît.
Il faut choisir la moto déjà.
Voilà, ouais, si on choisit
de en 2026 moto, que tu prendrais quoi ?
Oh, peut-être une T7 quand même, quoi. La Yamaha T7, ouais. Ce qui me parle. Mais, quoique, bon, vu mon gabarit, elle est un peu haute et voilà, ouais. Je suis en train de regarder des motos beaucoup plus basses et
c'est surtout, quoi les critères que tu.
Ben, la hauteur de la selle et le poids de la moto.
Et le poids de la moto, ouais.
Quand on est esclave de la moto, c'est pas. On perd du plaisir, hein. Donc, une moto adaptée à son gabarit. Même si on voit que des gens comme Cyril Leu, ils ont gagné le Dakar et c'est pas des grands gabarits. Ouais, voilà. Ouais. Une moto adaptée à son gabarit dont on n'est pas esclave, une moto qui se répare assez bien. Et puis, je pense que les machines de maintenance sont fiables.
Il y a une consommation raisonnable aussi, je suppose.
Oui. Alors nous, faut voir que quand on a fait ça, en 90-92, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas Internet.
Oui.
On n'avait pas d'assistance, donc.
C'était encore plus compliqué.
On avait les démons de pneus, on avait l'équipe, oui. On avait toutes les pièces, voilà. On a cassé le moteur, on est resté coincé 3 semaines au nord du Chili. Mais bon, 3 semaines quand on voyage sans limite de date au départ, voilà.
C'est rien.
La limite de date, je disais, il y avait la météo qui nous a orienté sur le quand visiter tel et tel pays, mais après la limite de date c'était la banque.
Et à la limite, j'irais quel pays t'as le plus influencé, quel pays tu as trouvé le plus intéressant, une culture
assez extraordinaire. Parce que c'est différent dans chaque pays. Alors les États-Unis c'était la découverte des grands espaces, etc. L'Amérique du Sud, c'est chaleureux, des modes de vie différents et c'est sympathique pour ça. L'Australie, alors là c'était la possibilité d'aller sur les pistes et de se faire un peu notre petit Dakar à nous, à notre échelle, avec les kangourous, les émeus. Et l'Inde, mais ça grouille de monde, c'est magique.
Et puis c'était en 92
voilà. Chaque pays, pour des raisons différentes, est intéressant. Je veux dire, le but d'un voyage comme ça, c'est quand même de découvrir les paysages et les gens qui vivent dans ces pays-là. Après, il y a des pays qu'on n'avait pas prévu de traverser, puisque le Moyen-Orient, donc l'Iran, Pakistan, Iran, Turquie, etc., c'était pas prévu. On avait prévu d'aller en Afrique après l'Inde, mais l'avenue du bébé nous a fait bifurquer et rentrer par la route directe, même si elle est longue. En Iran, il y a eu des péripéties pas sympathiques, mais il y a eu aussi des rencontres avec des gens très très sympathiques. Donc chaque pays est différent et en France, il y a du bon et du moins bon. Hein, c'est partout pareil dans le monde.
Hein. Est-ce que tu connais Anne-France Zondeville?
Oui, j'ai déjà
croisé. Qui a aussi fait un tour du monde toute seule. En passant par le Pakistan, l'Afghanistan et tout.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens. On entend moins parler en ce moment, mais il y avait Mélusine Malander. Moi, j'aime bien, là, sur Facebook, je regarde Motodome, c'est Constance, quelque chose, là. Et j'aime bien la fraîcheur de ces gens-là et ce qu'ils montrent. Et ils donnent envie, je trouve, aussi, de partir. C'est de donner envie.
C'est comme tu disais au début de l'interview, le problème c'est de partir.
Et il y a Doris Lacombe.
C'est les premiers kilomètres qui sont durs.
Oui, Doris Lacombe qui a commencé à faire de la moto à 80 ans et qui vient de faire, 20 000 kilomètres en Afrique. Que dire, ça donne envie de partir.
Il ne faut pas désespérer, il y a encore des gens qui osent quitter leur petite zone de confort partir.
Tout à fait. Bon. Et puis nous on prolonge un petit peu. Frédéric fait plein de voyages. Elle a fait le Havre-New York en cargo porte-container. Elle a fait Nice-Moscou, Moscou-Nice en train. Elle a fait le Cap Nord avec un vieux camping-car avec notre dernière fille qui est porteuse d'un handicap.
Très bien.
On est allé au Svalbard, c'est tout proche du pôle Nord, c'est les terres habitées les plus proches du pôle Nord. On continue à découvrir le monde avec les limites de nos contraintes familiales, on va dire.
Alors je vois sur le salon ici, donc à Lyon, je vois que tu as édité un livre.
Oui.
Le premier, c'est Jusqu'au bout du rêve.
Oui, Jusqu'au bout du rêve.
Deux ans autour du monde à moto.
Voilà, c'est un livre qui peut se commander sur Amazon qui raconte ce périple avec évidemment beaucoup d'anecdotes et toutes les rencontres qu'on a pu faire pendant ces deux ans de voyage. Et Frédéric a écrit aussi un autre livre sur sa montée au Cap Nord en camping-car avec notre dernière fille qui est porteuse de l'anomalie génétique, le syndrome Phelan-McDermid, qui a apporté, quelque chose de spécial à ce voyage et à ce récit aussi.
D'accord. Donc il suffit de taper sur Amazon
pour le
livre pour le voyage de deux
pour
ans.
Le voyage, et l'autre, s'il n'y est pas encore, il va le devenir, je pense, accessible sur Amazon aussi.
Très bien, Philippe. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Dernièrement, j'ai fait revivre ma moto en septembre dernier. Donc, elle a 49 ans. Elle a fait le tour du monde il y a 35 ans. Et j'ai fait dernièrement la route des légendes avec cette moto de Versailles à 7. L'aventure continue, autant pour Frédéric que pour moi.
Incroyable, c'est 500 XT, hein?
Oui,
incroyable.
C'est des motos, Les souvenirs sont là, mais c'est, oui, c'est des motos incroyables. C'est la 2 chevaux en moto. Hein.
La 2 chevaux.
Oui, oui, parce que ça n'a pas de puissance, ça n'a pas, mais un confort, un plaisir de conduite, et, comme sur une 2 chevaux, je dirais.
Ouais. Oui, parce que c'est vrai que le confort, ouais, déjà pour le passager ou la passagère, hein, c'est pas évident. Hein.
Alors, on avait. Hein je l'avais équipée, la moto, et elle est toujours équipée d'ailleurs, de repose-pieds suspendus pour la passagère et d'amortisseurs Fournalès,
oui,
pneumatiques, qui était un apport un petit, ouais, peu de confort quand
parce
même.
Parce que d'origine, les repose-pieds passagers, ils sont
sur le broussillant.
Sur le broussillant, hein.
Donc, bonjour les genoux. Oui.
Voilà, ouais. Voilà, bah, écoute, Philippe, je te remercie pour avoir répondu aux questions de Radio Campus Lille.
Eh bien, merci bien.
Merci.
Au salon de Lyon, et j'ai rencontré Guy du club Gauthier. Hein.
Club Moto Gauthier.
Gauthier, mais Gauthier, c'est un prénom. C'est quoi? Alors, ça, Gauthier?
Gauthier, c'est une marque.
Pour les jeunes qui ne connaissent pas, Guy.
Régionale.
Oui.
Française, bien sûr, mais c'est une marque régionale. Et le nom de Gauthier vient de son créateur, Jean-Claude Gauthier.
Gauthier.
Alors, Jean-Claude Gauthier, c'était un rallyman dans les années 68-70 qui faisait du rallye. Et ça lui allait pas, les motos, ça allait pas. Et un beau jour, il en a eu marre, il s'est dit, je vais faire ma moto. Il a fait une moto, on était en 1971, et le premier rallye qu'il fait avec cette moto, il finit premier.
Incroyable.
Et voilà, et c'est parti comme ça.
Et là, il a eu des clients.
Ah ben là.
Et des commandes ?
Un petit peu de clients, parce qu'il avait beaucoup de copains. Voilà, beaucoup de clients, et les motos Gautier ben, ont continué, ont été...
Mais dis-nous, pourquoi elle a gagné ? Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel, cette moto ?
Alors, cette moto, ce qu'elle a d'exceptionnel, c'est son cadre. Voilà, c'est un cadre qui est très très rigide, qui ne se tortille pas comme sur les japonaises, et donc c'est pour ça qu'il gagnait.
Alors il ne faisait que des parties cycles ou il faisait aussi le moteur ?
Ah non, il faisait que la partie cycle, hein, c'est vraiment quelque chose de spécifique à Gautier, et les moteurs, c'était donc des sages 6 vitesses qui ont équipé une multitude de machines, soit de course sur circuit, soit machines aussi tout terrain, faut pas l'oublier.
Elle fait tout terrain aussi.
Et, oui. Tout terrain et les moteurs Sache, le Sache 6 vitesses, il a même équipé les moteurs de l'armée allemande.
D'accord.
Des motos allemandes.
Oui.
Hein.
Alors ici, il y a à peu près 6 modèles exposés, 6 Gautier d'exposés. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ces machines ?
Voilà. Alors là, quand on voit les machines qui sont juste devant nous, bah, on a les premières machines qui sont avec le moteur 6 vitesses. On arrive aux machines des années 77-78 qui sont avec le Sage 7 vitesses. Puis non, on a là, juste derrière nous, la 250 qui est avec le moteur 7 vitesses. Alors la 250, vous pouvez pas l'avoir. Ça, c'est la moto qui a fait le Tour de France en 1970.
D'accord.
Le Tour moto.
D'accord. Voilà. Et ça s'est arrêté quand, Gautier ?
1981, malheureusement, parce que bah, c'est des très belles motos, mais qui valaient deux fois le prix des Yamaha.
Ah oui, quand même.
RD. Donc c'était quand même...
Il faut savoir ce qu'on veut si on veut, si on veut tenir la route. Hein.
Voilà. Par contre,
c'était... le prix.
La moto, quand on l'achetait, bah, le gars, il pouvait courir le lendemain.
Est-ce que ces motos-là ont été... ont concouru dans un championnat ?
Oui, tout à fait. Ils ont couru en promosport.
Promosport ?
À l'époque, ça s'appelait la Coupe des 4 saisons. Hein, et ils ont gagné 2 années de suite.
D'accord.
Voilà, ils ont gagné, ils ont été les champions 2 années de suite. Hein.
Alors, le cadre et la partie ici, qu'est-ce qu'il y a d'original pour que ça tienne la route comme ça ?
Alors,
et c'est aussi rigide ?
Pourquoi c'est aussi... Déjà, c'est du fer carré. C'est pas du fer rond comme sur toutes les autres motos. Et le moteur, au lieu d'être accroché par le dessous dans un berceau, il est accroché par le dessus. Comme tu peux le
voir. On va s'approcher, ouais. Hein, parce que... Là, comme on est sur le stand, hein, on a les modèles qui sont exposés. L'avantage, c'est qu'on puisse bien les voir. Voilà.
Voilà. Alors, tu vois, le moteur, il est tenu...
Elle est sur la culasse.
Par le haut,
sur, oui, la culasse. Sur la culasse.
Voilà.
Voilà. Et il y a quand même une prise de fixation en bas du moteur.
Il y a une toute petite prise derrière,
ouais.
Mais c'est le dessus.
Donc là, le brassier, effectivement, il est rectangulaire.
Voilà.
Alors qu'à l'époque, c'était
voilà,
rond.
Tout le cadre.
Et le cadre, la poutre, elle est rectangulaire aussi.
Une grosse poutre rectangulaire.
Ouais, d'accord. Très bien, je vois ça, ouais, ouais. Et donc un V, une espèce de V hein, qui ferme le cadre, là.
Voilà, mais bon, là les motos... On peut le voir sur l'autre, là tu le verras encore mieux. Tu le verras encore mieux. Tu vois, il n'y a rien en dessous.
Oui,
t'as,
oui.
T'as pas le berceau comme sur toutes les autres motos.
D'accord. Et ça c'est un modèle un peu plus tourisme, on va dire, non ?
Oui, bah,
parce que là, toutes les autres ont des carénages.
Voilà, c'est
comme celle qui est juste à côté aussi, là.
Voilà, c'est les motos de tourisme et c'est telles qu'elles étaient vendues. Il y avait une multitude d'options à l'époque, donc tu l'achetais avec ou sans carénage.
Et donc on commandait quoi, le moteur ou non, c'était on commandait la moto.
Tu commandais la moto.
Oui.
Mais après, si tu voulais un compteur, tu rajoutais un compteur. 30 tours, tu
rajoutais. Ah, c'était un peu comme ça au choix, alors.
Voilà.
Comme on voulait.
Voilà.
D'accord, très bien. Bah écoute, Guy, est-ce qu'on peut ajouter quelque chose ? C'est dommage que vous n'ayez plus, on va dire peut-être.
Non, c'est...
Donc c'est le club, hein, ici, Gautier.
Et
hein,
ici, c'est le
club. Combien de membres au club ?
Alors, on est au jour d'aujourd'hui, on est à peu près une quarantaine de membres, répartis sur toute la France, mais principalement sur le sud de la France.
Et voilà. La moyenne d'âge du club ?
Ben regarde autour de toi.
T'oses pas le dire.
On est tous.
Il faut que les jeunes arrivent, hein, parce que sinon.
Alors,
déjà, la marque est disparue.
Voilà.
Et si vous disparaissez.
Mais on a.
C'est fini, Gautier. Hein.
On a des jeunes. On a des
jeunes.
On a des jeunes passés à notre goût.
Ouais.
On a des jeunes.
Qu'est-ce que vous faites durant l'année ?
Alors, durant l'année, on commence l'année par le Salon du Deux-Roues. Là, il va y avoir, je crois, dans quelques semaines, une course de côte, mais je ne sais plus laquelle c'est. Là, il y en a 3 qui le font, là, dans le sud. Ouais, à côté du Mont Ventoux. Après, on fait fin mai, on va faire les coupes moto légendes. Et en fin septembre, on fait le Bol d'Or. On est invité au Bol d'Or tous les ans.
Vous allez faire le Bol d'Or, c'est-à-dire ?
Alors, quand on va faire le Bol d'Or...
Le vintage ? Le Bol d'Or classique ?
Oui.
Non, mais... pas classique, non. Non, vous d'expo.
On est en expo.
Ah oui, oui, oui.
Mais
oui.
Avant la course,
oui.
On a droit à...
Un petit tour de circuit.
Deux tours de circuit.
Ah, deux tours en plus.
Deux tours de circuit. Voilà. Donc c'est vraiment la cerise sur le
gâteau. Les Gautier, oui.
Ah, voilà.
Parce que les, au Castellet.
Voilà, ouais. Les Gautier, ils ont couru au Castellet.
D'accord.
Ouais, ils ont couru au Castellet, ils ont couru au Mans, mais
oui.
Sur les grands circuits, ils ont couru.
Très bien. Est-ce qu'il y a un site internet, Gautier ? Comment on fait pour vous contacter ?
Alors,
éventuellement.
Il y a un petit site internet, mais le petit site internet, il est géré par des gens qui ont un certain âge. Donc il évolue pas beaucoup.
Mais dis-le hein, quand même l'adresse du site.
Ah voilà, Club Moto Gautier.
Club Moto, tout collé, il n'y a pas de point de trait.
Il n'y a rien du tout.
Trait d'union.
Voilà, Club Moto Gautier.
D'accord.
Voilà, et après, par contre, entre nous, on a une très bonne façon de discuter, c'est avec le WhatsApp. Alors là, ça marche du tonnerre.
Le WhatsApp, voilà. D'accord. Mais c'est entre vous, ça, le WhatsApp.
Ça, c'est vraiment entre nous.
Oui, d'accord.
Voilà.
Eh bien, je pense qu'on a tout dit.
On a tout dit.
Eh bien, merci Guy.
Eh bien, merci la Miche.
Et bon salon.
Allez, à bientôt.
Ouais.
À Lille, alors.
Ouais, à Lille. Voilà, toujours au Salon de Lyon. Et j'ai rencontré qui ? Bernard Faux, bonjour.
Bonjour.
Voilà.
Bonjour.
Alors, on est devant cette expo des combines, des combinaisons des anciens pilotes, pas anciens et plus ou moins jeunes, hein, on va dire. Voilà.
Oui.
Et on est tombé sur ta combinaison, Bernard.
Ben oui.
Et d'ailleurs, c'est bien parce qu'elle est en première ligne.
Et là, je suis en première ligne avec Michel Rougerie.
Oui.
Et c'est pas mal parce que derrière, il y a des clients, quoi, tu vois.
Arpisson et... il y a des clients, ouais. Et là, t'es en première ligne.
Je suis en première ligne. Voilà, ça m'est arrivé quelques fois.
Ouais.
Et de faire des départs en tête et même de gagner des courses, surtout avec ce cure-là, avec lequel j'ai battu Barichi, qui était quand même un événement.
Ah, c'est la combine avec laquelle tu as battu Barichi.
Absolument, à Snetterton, août 77. Je n'ai pas oublié, hein,
oui.
49 ans, tu vois. Et voilà. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que ça, c'est un cuir Furigan, mais là, on voit que la manche de droite n'est pas Furigan.
C'est pas la même.
Cuir Dada.
D'accord.
Donc, ça veut dire que le type, il aurait eu deux cuirs à moi, ces couleurs-là, comme s'il avait détruit le bras droit, et il a cousu, parce que regarde, tu vois bien que le dessin... ne suis pas comme là.
Ouais, d'accord. Ouais.
Donc il a cousu le cuir Dada Furigan.
Mais dis-moi cette combine, tu n'as pas gardé tes combinaisons, tu les as vendues ou
les offert
Tu les as offert
Ah, bien sûr. Au musée.
D'accord.
De David.
Oui. Et donc il y avait un problème sur cette manche-là.
Sûrement, je ne sais pas, parce que moi ce cuir-là est parti dans la nature il y a très longtemps.
Ouais.
Ainsi que le cuir Dada. Et il y a un type apparemment qui a récupéré soit la manche, soit les deux cuirs et qu'on a fait une.
Bon, il y a plein de sponsors, il y a Furigan, Motul, ils donnaient de l'argent pour courir.
Parce que sans Motul.
GPA, c'est les casques.
Je ne roulais pas. Les casques GPA, qui étaient le casque haut de gamme. Rappelle-toi, en Formule 1,
ouais.
Tous les mecs qui avaient Prost, Piquet, tout ça, ils avaient des casques GPA qui étaient à la pointe. Des casques. Hein.
Ouais, des casques. Voilà. Et Michelin, là, forcément aussi. Hein.
Michelin, incontournable. Hein. Si tu n'avais pas le bon Michelin, c'était pas bon.
D'accord. Mais quand on regarde la combine, il n'y a pas de. Slider, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de protection.
C'est la combine d'un pilote qui est censé pas tomber.
Parce que dis-moi, quand tu tombais avec ça.
C'était pas gagné.
Ça faisait quoi ?
Ça faisait que des fois. Le cuir se râpait et tu faisais ce qu'on appelait une pizza sur la cuisse, tu sais. T'étais brûlé.
Ouais, t'étais brûlé. Oui, parce que maintenant, les pilotes mettent une petite combinaison en dessous de la combine.
Non, pas ça. C'est que surtout, les cuirs ne scrabent pas comme ça, quoi, tu vois.
Oui.
Ils tiennent.
Oui.
Et après, d'ailleurs, quand j'ai eu les cuirs Dada, même en grappant au sol, ils ne se perçaient pas.
D'accord. Alors, et derrière, il n'y a pas non plus de... Une protection pour la colonne vertébrale.
Rien,
là, c'est apparu bien plus tard. Hein,
Complètement. Hein. Sponsor, tu vois. Regarde là. Ça a râpé aux fesses. Bon, ça n'a pas percé.
Alors, on voit qu'il reste des traces. Hein.
Oui, bah regarde.
T'es pas toujours resté sur tes roues, là.
Non, je suis un petit peu tombé, mais pas beaucoup.
Ouais, mais quand même, ça a marqué la combine.
Ah oui, bah oui, cuir, il reste pas dans l'état. Hein.
Voilà, et puis alors, quand même, vu comment tu es encore à ton âge aujourd'hui, hein, elle t'a quand même bien protégé, cette combinaison.
Surtout, oui, elle m'a protégé, elle m'a permis de piloter, parce que
voilà.
Quand tu es un pilote, tu commences par mettre la bille avant de monter sur la moto,
voilà, ouais.
Et c'est là que tu rentres dans ton rôle de pilote.
Voilà, c'est ça, ouais,
comme l'acteur.
T'en as eu combien de combinaisons comme ça dans ta carrière ?
J'en avais pas tant que ça, parce qu'à l'époque, il les faisait pas à l'appel. Hein.
Ça coûtait cher.
Et ça coûtait cher. Bon, là, à ce moment-là, quand j'avais Furigan, ils me fournissaient le cuir, plus une prime d'argent. Mais j'ai peut-être eu en tout une dizaine de combines. Toi.
10 combinaisons pour la carrière, pour ta carrière ?
Oui.
Ouais, très bien.
Des combines avec lesquelles je faisais 2 années.
Ouais.
On changeait les étiquettes des sponsors.
D'accord. Ok.
Et à la fin, il n'y avait plus rien sur la combinaison.
D'accord.
Il n'y avait plus de sponsors.
Il y avait un peu de slider quand même à l'époque.
Non, moi j'en mettais pas.
Ça a été rajouté ?
Non, moi j'avais la mousse là.
Il y avait une mousse sur les genoux en fait.
Voilà, mais moi je frottais pas le. J'effleurais la piste pour ne pas l'abîmer.
C'était quoi ton style de pilotage à l'époque ? Parce que.
C'était.
Y a eu une époque où les pilotes étaient droits sur les
virages. Non.
Les virages, ils restaient droits.
Ouais, je sortais.
Mais il y a eu. C'est Arnaud Sarinen qui a commencé
c'est lui qui a
déhancher. À
déhancher.
À sortir de la moto, hein.
surtout parce que Jarno Saarinen venait des courses sur glace.
Ouais.
Donc le genou était obligatoire quasiment, toi,
voilà,
sur la glace.
Voilà.
Et quand il était sur la piste, mais il a continué à mettre le genou,
voilà,
à mettre des bouts de visière scotchés.
Et ça, ça a bouleversé le pilotage des notes.
Totalement. Roberts a compris, s'est inspiré de ça.
Voilà.
Il a dit, tiens, ce mec-là, s'il est champion du monde, il fait comme ça, il y a une raison. Tu sais, c'est comme le saut en hauteur, voilà, les mecs qui battent le record en faisant
ils ont
un nouveau genre. Puis derrière, tu
les autres ont bien compris que ben voilà, c'était, si tu voulais gagner, il fallait piloter comme ça.
Voilà. Donc voilà, tout doucement, les pilotes ont déhanché de plus en plus. Aujourd'hui, la tête n'est pas loin de toucher au sol. Bon, là, ça devient un peu acrobatique. Et honnêtement, je trouve ça pas très joli, hein.
Non.
D'un point de vue stylistique, toi, si on mettait des notes.
Quand tu vois au ralenti maintenant les pilotes dans les courbes, avec l'épaule et maintenant presque le.
Oui, mais c'est,
enfin, c'était le coude, maintenant c'est l'épaule.
Ça vient de l'acrobatie.
Oui.
Bah, c'est un mouvement.
Ça fait un troisième point d'appui.
Non, non, mais ça se comprend d'un point de vue efficacité. Je parle d'un point de vue du style. Tu sais,
le style.
C'est comme au patinage. Hein. Il y a la note artistique et la note technique, tu vois. Donc au niveau de la note artistique, pas terrible.
D'accord, très bien.
J'aimais bien le léger déhanché, mais sobre.
Ouais, hein, sobre.
Là, ils ne sont plus dans la sobriété. D'abord, les motos ne sont plus dans la sobriété. Avec tous leurs ailerons, elles n'ont jamais été aussi laides.
Oui.
Elles sont affreuses.
Oui, c'est affreuse.
Avec en plus la moto qui est écrasée, tu sais, avec leur système et tout. Tu te dis, mais c'est quoi? On dirait qu'il n'y a plus de suspension.
C'est pas grave, l'année prochaine, il y aura un bouleversement en MotoGP.
Oui,
hein.
Enfin bon,
ça va revenir à 850 et.
Bon, fou, ça
et puis tous ces trucs-là, là, maintenant, ça va être supprimé. Hein.
On verra. J'attends de voir. Parce que les ingénieurs, ils lâchent pas le truc comme ça.
Ouais.
C'est eux qui s'amusent. Hein.
D'accord. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir ta combinaison en première ligne de cette grosse collection ici de cuir, hein. C'est impressionnant, hein.
Ben, ça veut dire que...
Alors on voit Michel Rougerie et on voit Bernard Faux.
Ça veut dire que déjà, hein, pour David, je compte dans son histoire. Parce que David, David Roger qui a lancé cette série, ce musée, pour moi c'est un petit musée. C'est...
Ouais.
Il y a quelques années... on s'est rencontrés, je l'ai encouragé, ça m'a plu. Je lui ai donné les 2-3 cuirs qui me restaient et il a apprécié. Et voilà, il me met en bonne position.
Bon. J'imagine que Patrick Pons est en troisième ligne.
Ah, ben des fois, Patrick était derrière moi, hein, je suis désolé. Hein.
Hein,
bah oui.
Bah non, mais bon, chapeau. Hein. Bravo, Bernard.
Eh oui,
bravo.
J'ai eu quelques moments de grâce.
De gloire.
Oh, gloire.
Voilà, et ici, à Lyon, ça continue.
50 ans plus tard.
Voilà, bah écoute, merci. Mais est-ce que tu veux ajouter quelque chose, éventuellement?
Bon, ben non, parce que là, si on parlait de chaque pilote, tu vois, quand...
Ah bah non, mais alors là, on n'aurait pas le temps. Hein.
Tu vois, chaque histoire...
Si tu veux, on peut rentrer entre les combines, dans l'allée, là, entre les combines. Hein. Voilà.
Patrick Pons,
Patrick Higoa. Hein.
Patrick Higoa, Uto, Lotto,
voilà.
Buzan, qui tombait beaucoup.
Ouais.
Regarde le cuir de Buzan.
Ah oui, alors lui, c'est rappel le cul, hein.
Voilà.
Lui, ça rappelle cul, là.
Le Liard, Dominique Pernet, Michel Frucci, paix à son âme, Guilla Bodec, tous ces gens-là, évidemment.
Jacques Boll.
Voilà, toi.
Sur la Pernod.
La Pernod, Victoire au Boll.
Ouais. Raymond Roche.
Baldé. Coudray, qui n'est plus là, malheureusement.
Samin.
Pierre-Jacques
Samin.
Dominique Sarron.
Sarron.
Paul Borde. Jean Bastelin, Gérard Vallée, Guy Bertin.
Guy Bertin.
Alors, toi.
Bien rappelé aussi, Guy Bertin.
Ah. Bruno Le Bihan, Emmanuel Lintaigne.
Voilà. Tout ça, c'est des pilotes avec lesquels tu as concouru?
Pas tous. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai arrêté en 83. Il y en a que j'ai pas connu en tant que pilote. J'ai connu en tant que nom, toi.
Ouais.
Mais en tant que pilote, toi, Jules. Regarde là-bas, Jules Cluzel, il a l'âge d'être...
C'est trop jeune.
C'est jeune, toi.
C'est trop jeune pour toi.
Voilà.
Johan Zarco, trop jeune aussi.
Ah, ouais, mais...
Voilà, mais tu connais Johan.
Kenny Forrest.
Est-ce que tu as réalisé un film, hein?
Ça, c'est les petits jeunes.
Là, c'est des jeunes.
Ah, Dominique Parlier.
Mais Dominique Mélian.
Ça y est, là, on rentre dans l'ancienneté, toi.
Oui, Dominique Mélian.
Masbou,
bah non, c'est pas ta catégorie.
David, il a déjà plus de 200 cuirs à ce jour.
Christophe Guillaume, c'est pas non plus, hein, voilà.
Max Biaggi,
alors là, on a quand même Max Biaggi. Alors là,
excusez-moi.
Là, on va rentrer dans le...
Lui, je l'ai admiré, voilà. Donc, et comme disait David, il a réuni ce qui n'a jamais eu lieu, tous ces pilotes-là, au même endroit.
Incroyable. Impressionnant.
C'est le musée.
Voilà, bah écoutez, voilà, il fallait. Si vous n'êtes pas venu ici à Lyon, voir admirer toutes ces combines, bah, il fallait venir. Peut-être que l'année prochaine, elles seront encore là. Ah, mais il vient Douai. La collection vient Douai. Excellent, oui. Oui, d'accord. Très bien, Bernard. Bon, bah écoute, merci d'avoir commenté cette interview.
Hier, on l'aperçoit, l'organisateur, le collectionneur, a tiré ses pieds.
Très bien. Merci, Bernard. On est toujours au salon de Lyon et j'ai rencontré Serge et Delphine, hein, qui ont une chambre d'hôte, voilà, dans le Lot. Oui. Bonjour Serge.
Bonjour.
Alors, explique-nous un petit peu ce que tu fais pour les motards. Hein. Tu accueilles les motards.
On accueille un peu tout touriste, mais en principe, c'est 80% de motards. Oui. Et donc, on sait ce qu'aime le motard. Donc, on fait des grandes tablées aussi le soir, conviviales pour manger avec nos gens. On mange avec nos hôtes tous les soirs. Et puis, quand j'ai le temps, ben, je fais des balades avec eux. Et j'ai un coin pour bricoler un peu à la moto. Et on a un coin place de l'apéro, où on fait nos apéros tous ensemble. Et on fait beaucoup de... On dira tous nos produits qu'on propose soit au petit-déj le matin ou au repas du soir, c'est pratiquement du 95% fait maison.
Alors tu veux passer la parole à Delphine ?
Oui, bonjour tout le monde.
Bonjour, c'est toi qui fais la cuisine alors ?
Oui, voilà, alors c'est moi qui fais la cuisine.
Alors c'est en Dordogne, hein, c'est la Dordogne, donc c'est...
Proche de la Dordogne.
Là c'est le gastronomie,
voilà,
on est au top.
Je cuisine le magret de canard, tout ce qui est en rapport avec le canard, les
Mon Dieu, ça fait grossir tout ça.
Mais non, pas du tout, c'est très sain au contraire.
Ouais, d'accord.
Et donc, ben oui, une fois par semaine, on fait des paella, on utilise le brasero, une table commune, on mange tous ensemble. Et donc, je privilégie le local, en fait. Voilà, et je fais mes brioches, je fais tout, en fait. Voilà, quand on vient
Vous avez
à la maison,
beaucoup de travail, tout ça ?
Énormément de travail. J'y suis du matin jusqu'au soir dans la cuisine.
Bon
parce
Dieu.
Que justement, je fais les yaourts, le pain, je fais tout ça.
Oui. Et c'est des produits bio ou enfin, tous ces produits qui sont...
En fait, je vais sur les marchés,
oui
je travaille avec les producteurs
d'accord.
locaux donc, d'ici.
Ouais.
Donc, en général, c'est du bio,
très bien.
Voilà, avec des carottes toutes tordues. Voilà, tout
très
va bien.
Très bien. Serge, comment ça se passe, les groupes ? Parce que tu dis que tu les accompagnes aussi pour faire des balades, pour découvrir la région aussi.
Oui, c'est ça. Quand j'ai, en général, une fois par semaine, parce que j'ai aussi du boulot à la maison, eh ben, je roule. Alors, en fait, je les accompagne, je leur fais voir un petit peu le coin. On va visiter quelque chose sur le trajet, parce que j'ai toujours des idées quand je roule. Et ça, c'est sympa pour eux. Comme ça, ils n'ont pas à s'occuper du GPS. Ils me suivent et puis on est ensemble. On mange un bout en route. Et le soir, après, on se retrouve à la table d'hôte.
Donc, si je comprends bien, on arrive chez toi. Tout de suite, on est bien cuit. Alors, en plus, il faut préciser que tu fais partie des relais motards. Hein.
Ah bah oui,
il y a la charte des relais motards
voilà.
En plus. Hein.
Et la charte,
voilà.
Ouais.
Et donc, on arrive chez toi. Là, on est accueillis...
Oui, on est un peu comme chez soi, en fait.
On va à la piscine.
On a
après
des jeux.
Après la piscine, on prend l'apéro.
Oui, c'est ça.
Voilà.
L'apéritif. Puis on a aussi un coin jeu. On a table de ping-pong. On a un beau terrain de boules. On a des jeux de fléchettes. On a tout un tas de jeux pour les gens. J'ai aussi un vieux flipper des années 70, des machines à sous, enfin plein de choses. Et puis tout est décoré, bien sûr, un peu pour le motard, hein, parce qu'on on baigne là-dedans. Et puis le soir, on est tous ensemble jusqu'à 11h.
Et le soir, tu racontes toutes tes histoires de voyage.
C'est ça.
Parce que tu m'as dit que tu as beaucoup voyagé en Australie.
Bah,
et dans notre pays aussi.
J'ai fait des raids, ouais, en Australie, aux États-Unis. On est passé par le Canada, l'Alaska, la Turquie, l'Angleterre.
T'es un grand voyageur.
Voilà. Et maintenant, je roule dans le Lot et en Dordogne avec mes clients, mes motards.
D'accord.
Voilà.
Oui. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus ? Ben d'abord, il faudrait donner le numéro de téléphone hein, pour éventuellement si des auditeurs ça intéresse.
Et ben voilà, donc nous c'est donc moi mon téléphone c'est le 06 64 33 06 58 et c'est s'appelle Mass Labord. Quand on fait Mass Labord sur Google, on arrive tout de suite.
D'accord.
Voilà.
Quelle est la meilleure époque pour aller visiter le gîte et la Dordogne éventuellement.
Et ben de nos jours, c'est difficile à dire parce que là quand on voit que là la semaine on a eu 24 degrés, on est en mi-février, ce qui n'est pas normal. Mais l'année dernière, par exemple, donc, on s'est baigné vers le 14-15 mai avec 27 degrés eau de piscine. Donc ça veut dire qu'avant, il faisait déjà bien chaud, puisque sinon, on n'aurait pas eu 27 degrés sortie d'hiver. Quoi. Donc c'est pas évident.
Le mois de mai, alors ?
Parce avril-mai, c'est bien. Juin aussi, jusqu'à mi-juin, mais après, ça peut taper très fort.
Après, juillet-août, c'est un peu trop chaud.
40-41.
Hein.
Ah, ouais,
40, ah oui.
Ah ouais, ça... Alors, il y en a qui aiment. Il y en a qui aiment. J'ai beaucoup de gens qui viennent en Harley et puis qui aiment rouler en t-shirt et qui viennent quand il fait chaud et qui se baignent.
Oh, mais là, c'est chaud, hein, 41. Hein.
Oui. Il a fait chaud partout, oui.
Voilà, très bien. Eh bien écoute, je te remercie, Serge. Et puis,
avec plaisir.
Voilà, on espère bientôt vous retrouver. Voilà.
Vous faire,
merci.
Merci. Alors, on va venir goûter les spécialités. Hein,
vous attend tous.
Très bien.
Voilà, bon roulage à tous.
Merci.
Sunday. Read the lies in our eyes just to see a big surprise. Well, I've been a real good man, spending time on the land. Now it's time for me to take my stand. Now it's time for you to take my hand.
Toujours au Salon de Lyon et je suis avec Gérard, c'est le président du club BFG. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Voilà, on rappelle un petit peu l'histoire BFG.
Alors BFG, ça commence en 1978. Raymond Barre crée un concours de création de jeunes entreprises. Le défi est relevé par deux professeurs de l'école de commerce de Chambéry, Dominique Favario et Thierry Grange, qui s'associent avec Louis-Marie Bocardo pour créer BFG. Il remporte le concours, donc avec une dotation. Et Dominique, en particulier, qui est vraiment jusqu'au boutiste, dit « Mais on ne fait pas juste un concours, on lance l'affaire. » La société est créée. Ça nous amène fin 79. Elle s'installe dans ses locaux de la Ravoire au même moment. Et on commence à démarrer, ou à chercher plus exactement, à démarrer la production de la moto. On bute assez rapidement sur un problème de transmission parce que le prototype avait été créé sur la base d'une transmission de moto Guzzi qui s'avère un peu fragile pour le couple du moteur GS et surtout, De Tomaso, alors PDG de moto Guzzi, nous confirme qu'il ne peut pas nous vendre la transmission car ils sont en limite de capacité de production et il faut attendre la fabrique. Il faut attendre que leur nouvelle usine soit construite et nous, ça, on ne peut pas se le permettre. Donc on décide à ce moment-là de fabriquer notre propre transmission. On crée 4 ou 5 prototypes de pré-série, on peut les appeler comme ça, qui nous emmènent fin 80. À cette période, c'est une grosse période charnière pour BFG, puisque Bocardo, le B, est donc limogé, remplacé comme directeur technique par Michel Guichard. Et ben, on se remet sur la planche à dessin, on repart de zéro, et en un an, on recrée une moto, sur la base évidemment de nos enseignements, hein, avec les deux premières motos vendues en février 1982, soit un peu plus d'un an après, par Charles Krashka, qui fut notre premier client. La moto perdurera à la Ravoire, donc à côté de Chambéry, jusqu'en début 84, dépôt de bilan de la société. La marque BFG est ensuite reprise par MBK, qui vient de renaître des cendres de moto bécane. Elle sera produite encore pendant 2 ans avec un très très gros boulot des 2 ingénieurs qui ont suivi l'affaire, qui ont suivi l'aventure, puisque bien évidemment au bout d'un peu plus de 2 ans de vente, on a quand même relevé pas mal de points à améliorer, ce qui sera fait sur la version qu'on peut appeler MBK puisqu'elle a été commercialisée par MBK. Quand MBK reboit le bouillon en 86, si je dis pas de bêtises, Yamaha, qui était alors actionnaire minoritaire, devient actionnaire majoritaire et nous fait comprendre assez rapidement que la BFG, bah, ils ont ce qu'il faut dans les catalogues et ça n'a plus d'intérêt pour eux. Les pièces et les motos prémontées, les plans, etc., tout ça, ça va végéter, je crois, pendant un an et demi à peu près, avant que la marque soit reprise par les Sidecar Précision, qui était à Seclin, dans le nord de la France. Et à ma connaissance, la dernière BFG vendue est vendue en 1995 ou 96, date à laquelle M. André, donc les Sidecar Précision, arrête la fabrication des BFG, je crois, de ces Sidecars. C'est le moment pour le motoclub de racheter le stock de pièces détachées, ce qui nous place dans une situation un peu particulière pour un motoclub, puisqu'on a un énorme stock de pièces détachées qui nous permet de continuer à maintenir en état, à faire rouler nos motos.
Combien encore de BFG qui roulent en 2026?
Alors, c'est difficile d'avoir les chiffres précis. Disons que, sauf erreur de ma part, on en a fabriqué 622 au total, exportés dans 22 pays du monde. On est à peu près certain d'en connaître aujourd'hui l'existence de 400, soit les 2/3. Mais on n'est pas à l'abri que certains aient une moto complètement démontée chez eux dont on n'a pas connaissance et un cadre, des roues, une carte grise, voilà.
Bon, il faut dire que c'était un moteur costaud, hein. C'était le moteur Citroën, le 4 cylindres.
C'est le moteur, c'est le 4 cylindres à plat de la GS Citroën, de la GSA plus exactement, Citroën 1300 Eco. Et effectivement, on a parmi nous des membres qui ont des kilométrages records, puisque un des adhérents qui expose sur ce salon a largement passé les 300 000 km avec sa moto. Au Coupe Moto Légende, il y a 2 ans, sans que je puisse en être sûr, on a quand même un autre membre du club qui lui affiche plus de 525 000. Et ça confirme qu'on ne s'était quand même pas complètement trompé, c'est-à-dire qu'on a à la fois quelque chose de solide qui permet de rouler, de faire des kilomètres, de tracter un side.
Surtout ça, hein, c'était une moto qui était appréciée par les sidecaristes.
Alors oui, ça a été. Alors ça a été d'ailleurs. Un point important du développement de la BFG, parce que elle a une architecture qui est assez particulière et qui est très novatrice pour l'époque. On a un cadre treillis qui n'aurait pas à rougir des fabrications actuelles, enfin comparé aux fabrications actuelles. On a une boîte de vitesse qui est entièrement porteuse, c'est-à-dire que c'est le centre de la moto en réalité. Cette boîte est accrochée au cadre, le bras oscillant est articulé directement à l'intérieur de la boîte de vitesse, les platines repose-pieds sont fixées dessus, bref, on a un ensemble groupe motopropulseur qui tient sur le cadre par 2 broches. Or, pour accrocher un sidecar, il faut des points d'attache. Et ces points d'attache, on ne les avait pas. On a donc créé, et c'est sans doute un peu original, l'usine BFG a dessiné ce que l'on appelle un faux berceau que l'on rajoute sur la moto, qui est donc homologué par le constructeur, sur lequel on peut venir fixer les sidecars.
Alors sur le stand ici, il y a une moto qui apparemment a une BFG qui a fait de la compétition. Tu voulais nous en parler?
Alors, on a les gens qui ont des BFG n'ont rarement qu'une BFG. En moyenne, ils en ont 2 ou 3. Et Michel Picandet a réalisé plusieurs motos originales sur la base d'une BFG. En particulier, celle que vous avez sous les yeux, puisqu'il a rajouté un compresseur volumétrique sur la moto,
oui.
Voilà, portant la puissance du moteur de 65 à 105 chevaux environ. et la présentant sur des manifestations comme les Coupes Moto Légende à Dijon, comme le SRC, je me souviens plus s'il y a tourné au Paul Ricard, mais enfin, il avait la capacité de le faire. Le moteur a fini par rendre grâce,
ah, oui.
parce que la charge était un peu trop importante pour lui. Il faut quand même aussi savoir qu'à chaque fois, Michel part de moteur d'occasion, hein, donc sans connaître vraiment son historique et l'état du moteur à l'intérieur.
Voilà. Donc elle a participé à quelle compétition, cette moto ?
C'est pas vraiment des compétitions, non, c'est plutôt des démonstrations, sur circuit.
Oui.
Mais si tu as déjà eu l'occasion d'aller aux Coupes Moto Légende...
Coupes Moto Légende, oui.
Hein, tu as pu remarquer que les démonstrations tournent souvent au baston. Et
on s'arsouille un peu au début, ça va, voilà. C'est bien. Et après, au bout de 2-3 tours, on s'arsouille un peu, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc lui, bah, forcément, il présente pas dans la catégorie série, mais dans la catégorie prototype, et il avait vraiment pas à rougir de sa prestation.
Qu'est-ce qui a manqué à BFG parce que finalement, c'était quand même une moto qui avait éventuellement une marque qui avait de l'avenir.
Alors, je suis pas sûr que la matinée va suffire, mais...
Alors vite fait, hein, quand même.
Oui, oui. Alors, je vais essayer de faire simple. Ce qui a manqué, en tout premier lieu, c'est la... Alors, sur le plan structurel, la capacité en France de faire du capital risque, ce qui n'existait pas à l'époque. Donc ça a gêné la montée en puissance de l'actionnariat de la société BFG. Ce qui a manqué aussi en France, et ça, c'est plus triste, parce que ça rappelle un peu l'histoire de Vauxhall, qui nous suit, hein, avec 10-15 ans d'écart.
C'est la même histoire.
C'est la même histoire, absolument. Hein, c'est la difficulté d'intéresser des investisseurs, la difficulté, pardon pour l'expression... À long terme, et de faire bander les gens pour ça. Voilà. Je suis désolé d'être trivial, mais c'est complètement ça. Et si je peux me permettre une anecdote, Citroën ne nous a jamais aidés pour les moteurs, à tel point que j'ai découvert, il y a moins de 10 ans, qu'ils avaient fait des évolutions sur ce moteur dont on n'a jamais été informé. En particulier un refroidissement liquide.
Oui, parce que la société BFG achetait les moteurs à Citroën. Hein,
pas directement à Citroën, on les achetait à la CLM.
Il n'y avait pas de remise de prix. Hein.
Non, on les achetait à la compagnie lilloise des moteurs. Et donc sans remise. On n'avait pas de... non seulement on n'avait pas de remise particulière, mais en aucun cas on participait au développement, à l'amélioration, ou on avait de relations privilégiées avec Citroën. Et c'est exactement la même histoire, voilà.
Alors on pourrait dire qu'à l'époque, quand elle est sortie, cette BFG, quand elle est apparue, la concurrente, la première concurrente, c'était la Goldwyn.
Exactement.
Il y avait qu'elle, hein, qui pouvait concurrencer la BFG, ou la BFG concurrencer la Goldwyn.
Alors tu ne crois pas si bien dire, pour des tonnes de raisons en fait. D'abord parce qu'elles jouent toutes les deux dans la même catégorie, des grandes routières. Ensuite, par leur architecture, puisque la Goldwyn a également un moteur 4 cylindres à plein, également un réservoir sous la selle. Oui. Et enfin, par la provenance des moteurs, parce qu'on oublie un petit peu trop souvent que le moteur de la Goldwyn, il est issu de l'automobile. Pas un moteur moto 100% avec un couple et une puissance haut placée, mais au contraire, quelque chose qui est fait pour rouler sur le couple. Et la BFG, bah, c'est tout à fait, elle s'inscrit tout à fait dans ce cadre-là. Et les présentations et les, on va dire, les incursions de la BFG en compétition... Alors, sur le plan officiel, j'ai participé à la fois officieusement au Rallye Monte Carlo Moto, qui n'existait qu'une année en 83, que je n'ai pas terminé parce que la boîte de vitesse, alors fragile, a cassé, mais j'étais en tête du rallye. On était deux, on était trois à être sortis de l'épreuve de nuit et du redoutable Burzet sans pénalité. Les deux frères fauchés et ma pomme sur ma grosse mémère. Donc le but, c'était de prouver que cette moto conçue pour le grand tourisme, avec des aptitudes routières qui lui permettaient de ne pas être ridicule dans une compétition ou dans un rallye.
On est en 2026, s'il n'y avait pas tous ces problèmes pour PFG, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer si elle existait encore, cette marque ?
Alors, on aurait d'autant plus l'imaginer que... Comme tu peux t'en douter, on a cherché des partenariats vraiment tout azimut, et en particulier auprès des quatre grands constructeurs japonais. Et si ma mémoire est bonne, 3 semaines après le dépôt de bilan de janvier 84, on a reçu la réponse de Suzuki qui était oui. C'était trop tard.
C'est bizarre aussi.
C'était trop tard, mais c'était oui. Non, alors c'était moyennement bizarre parce que tu ne t'en souviens peut-être pas, mais Les Japonais avaient la trouille que des mesures protectionnistes soient prises pour les fabricants de motos. Honda avait d'ailleurs implanté une usine en Italie à ce sujet-là. Et ils cherchaient en fait des partenaires pour pouvoir s'implanter dans les différents états de l'UE pour protéger leurs arrières.
Alors donc, les possesseurs de BFG en 2026 ont les pièces pour pouvoir les restaurer quand même. Alors, et toute la partie carrosserie, est-ce qu'on peut encore s'en procurer ?
Alors, pour les pièces, on fait un peu tâche dans le monde des clubs, puisque je crois qu'à part le SM Club, SM pas sadomasochiste, mais Citroën SM, qui a également un très gros stock, on a un très très gros stock de pièces détachées. Nous, comme il y a dans les membres du club des anciens de l'usine BFG, que l'on a tous les plans de la moto, ça nous permet, si une pièce venait à manquer, de pouvoir la faire refabriquer, ce qui a été le cas pour déjà plusieurs fois. Et on a vraiment tout ce qu'il faut pour maintenir ces motos en état et continuer à les faire rouler.
Est-ce que dans le club, y a une nouvelle génération qui arrive, des jeunes ?
Alors,
ça me fait peur. Parce que qui fait vivre cette marque ? Ouais.
Alors, bonne question. Et là, tu mets un peu le doigt où ça fait mal. Mais je te remercie de l'avoir posé. C'est effectivement un souci parce que on s'aperçoit que globalement, la population du motoclub BFG sont des gens qui ont chez leur moto entre 20 et 30 ans et qui sont restés au club et qui, même s'ils ne roulent plus avec, conservent leur moto par sentimentalisme. Donc la difficulté pour nous, c'est d'intéresser une population différente. Alors, cette moto a longtemps été décriée à cause de son moteur de voiture, parce que quelques pointures du monde moto chambérien n'avaient pas été consultées, qui se sentaient avoir été un peu écartées. Et on s'aperçoit que actuellement, les collectionneurs commencent à s'intéresser à la machine. Alors, elle n'atteindra jamais des sommets, hein. Mais aujourd'hui, les motos se négocient entre 3 et 5 000 euros. C'est-à-dire que globalement, on ne perd pas d'argent par rapport au prix de vente initial des 80. Mais le gros problème, c'est d'intéresser des gens qui ont moins de 50 ans et qui vont pouvoir continuer à faire vivre le
ça,
club
c'est
et
pas
la marque.
Facile.
C'est pas facile. Alors, on a quand même quelques jeunes, mais enfin, ils se comptent sur les 10 doigts d'une main.
Il y a un contact, il y a un site internet,
absolument.
Un téléphone, je ne sais pas.
Absolument. Alors, il y a un site internet.
On ne sait jamais, hein, un auditeur qui serait intéressé pour,
bien sûr,
pour avoir des informations sur la BFG.
Alors, il y a un site internet avec un forum. On peut y accéder en tapant www.bfg.asso, comme le début d'association.fr, avec deux zones, une zone réservée aux adhérents et une zone grand public qui permet de connaître l'histoire, de voir les événements qui sont à base de BFG et de suivre un peu, de continuer à suivre cette histoire.
D'accord. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose que éventuellement on aurait oublié de dire ?
La moto française ne mourra jamais.
Ah, monsieur le Président, merci.
Merci à toi, très bonne journée. Bonsoir.
Au revoir.
magazine de la moto, c'est terminé. Nous vous souhaitons un bon dimanche et surtout une bonne semaine. Restez à l'écoute de Radio Campus Lille et rendez-vous même heure, même endroit, dimanche prochain sur le 106,6.